Que le nom du Seigneur soit béni. Pour ces moments privilégiés, pour le chauffage aussi, c'est quand même bien. Vous êtes d'accord? Oui, c'est une grâce. Alors nous allons faire trois lectures. La première dans l'évangile de Marc, au chapitre 8. Le Seigneur parle à ses disciples, dont ceux avec qui il est tous les jours. Des hommes et des femmes avec qui il se retrouve pour partager sa parole. Et malgré le fait que Jésus est avec eux tous les jours, regardez ce qu'il dit. Marc chapitre 8, verset 15. Il nous est dit au verset 15 que c'est une recommandation, donc c'est un avertissement. Et vous et moi, même si nous sommes des disciples, nous avons besoin d'avertissements, de recommandations. Regardez cet avertissement que Jésus adresse aux disciples. Marc 8, verset 15. Jésus leur fit cette recommandation. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens et du levain d'Hérode. Ce n'est pas des gens que Jésus voit tous les six mois, ce sont des disciples. Des disciples. Avec soin, donc c'est attentivement. On y reviendra tout à l'heure dans la prédication, si on a le temps. Nous allons faire une autre lecture dans l'épître aux Galates, épître que je vous exhorte à lire pour que vous compreniez bien le sujet de ce soir. L'apôtre Paul s'adresse donc à ses chrétiens, on va lire deux versets qui nous intéressent. C'est quand même très difficile la discussion que Paul a avec Barnabas, avec Pierre, etc. Ça chauffe vraiment, comme on dit, dans cette affaire-là. On y reviendra. Galates au chapitre 2, au verset 21. Paul dit ceci pour conclure l'entretien qu'il a avec Pierre. « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Et un peu plus loin, dans le même sujet, l'apôtre Paul dit aux Galates qui se sont éloignés de la grâce parce qu'ils ont réintroduit la loi à la place de avec la grâce. Il dit ceci, une parole sévère, Galates 5, verset 4, « Vous êtes séparés de Christ. » Il s'adresse à des chrétiens. « Vous êtes séparés de Christ, vous tous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. » Vous vous rendez compte, les paroles que Dieu adresse à des chrétiens, c'est des paroles extrêmement sévères, vous comprendrez mieux à la fin de cette prédication. Ce qui nous intéresse, c'est dans l'évangile de Luc, au chapitre 15, on va lire à partir du verset 2, pourquoi Jésus a adressé la parabole au fils prodigue, parce que des croyants étaient des pharisiens, ceux qui étaient les plus pointus dans la doctrine à l'époque, eh bien, étaient mécontents, furieux, parce que Jésus était en train de manger avec des gens de mauvaise vie. Ça ne leur plaisait pas du tout, parce qu'ils avaient des règles imposant qu'on ne devait pas manger avec des gens de mauvaise vie. Donc, quelqu'un qui mangeait avec un pécheur, eh bien, ce n'était pas quelqu'un de bien. Vous voyez, les règles qu'ils avaient puisées au travers de la loi, ce qui n'avait rien à voir. Luc, chapitre 15, verset 2, on lit le texte pour ceux qui n'étaient pas là dimanche. Les pharisiens et les scribes murmuraient, disant « Cet homme accueille des gens de mauvaise vie et mange avec eux. » Donc c'est dans ce contexte que Jésus donc adresse trois paraboles. On va lire celle qui nous intéresse. Verset 11. Jésus dit encore « Un homme avait deux fils. Le plus jeune dit à son père « Mon père, donne-moi la part de bien qui doit me revenir. » Et le père leur partagea son bien. Peu de jours après, le plus jeune fils ayant tout ramassé, partit pour un pays éloigné où il dissipa son bien en vivant dans la débauche. Lorsqu'il eut tout dépensé, une grande famine survint dans ce pays, et il commença à se trouver dans le besoin. Il alla se mettre au service d'un des habitants du pays, qui l'envoya dans ses champs garder les pourceaux. Il aurait bien voulu se rassasier des carouges que mangeaient les pourceaux, mais personne ne lui en donnait. Étant rentré en lui-même, il dit « Combien d'ouvriers, chez mon père, ont du pain en abondance, et moi ici, je meurs de faim, je me lèverai, j'irai vers mon père ». Et je lui dirai, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. Traite-moi comme l'un de tes ouvriers. » Et il se leva et alla vers son père. Comme il était encore loin, son père le vit et fut ému de compassion. Il courut se jeter à son cou et l'embrassa. Le fils lui dit, « Mon père, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Je ne suis plus digne d'être appelé ton fils. » Mais le père dit à ses serviteurs, « Apportez vite la plus belle robe et revêtez-le. Mettez-lui un anneau au doigt et les souliers aux pieds. Amenez le veau gras et tuez-le. Mangeons et réjouissons-nous. Car voici que mon fils était mort et il est revenu à la vie. Il était perdu et il est retrouvé. » Et ils commencèrent à se réjouir. Or, le fils aîné était dans les champs. Lorsqu'il revint et approcha de la maison, il entendit la musique et les danses. Il appela un de ses serviteurs et lui demanda ce que c'était. Ce serviteur lui dit « Ton frère est de retour et ton père a tué le veau gras parce qu'il l'a retrouvé en bonne santé. » Il se mit en colère et ne voulut pas entrer. Son père sortit et le pria d'entrer, mais il répondit à son père « Voici, il y a tant d'années que je te sers, sans avoir jamais transgressé tes ordres, et jamais tu m'as donné un chevreau pour que je me réjouisse avec mes amis. Et quand ton fils est arrivé, celui qui a mangé ton bien avec des prostituées, c'est pour lui que tu as tué le veau gras ?»« Mon enfant, lui dit le père, tu es toujours avec moi, et tout ce que j'ai est à toi. » Retenez bien cette parole. Mais il fallait bien s'égayer et se réjouir parce que ton frère que voici était mort et qu'il est revenu à la vie parce qu'il était perdu et qu'il est retrouvé. Amen. Amen. Pendant des années, j'ai utilisé cette parabole, comme tous les prédicateurs, pour expliquer surtout le comportement du petit, du dernier, qui revient à la maison parce qu'il a compris qu'il avait fait une erreur et que la meilleure place, c'était de se retrouver auprès de son père. C'est une parabole, c'est une histoire qui peut être utilisée pour l'évangélisation, mais croyez-moi, c'est une histoire qui peut être utilisée pour édifier le corps de Christ. J'ai donné comme titre à ma prédication, puisque nous sommes dans le repos, repos impossible pour le frère aîné. Repos impossible. Car n'oublions pas que notre sujet qui nous préoccupe, c'est que nous les chrétiens, nous ayons le meilleur témoignage possible pour être une source de bénédiction pour tous les gens que nous pouvons côtoyer. Parce qu'on côtoie toutes sortes des gens qui se convertiront, des gens qui ne se convertiront pas, des gens qui nous apprécieront, des gens qui ne nous apprécieront pas, des gens qui empireront. En tous les cas, quel que soit ce que les gens feront, nous, nous voulons avoir un bon témoignage auprès de ces gens. Bien sûr, nous aimerions que tous se convertissent, mais ça, c'est une autre chose. Ce qui est important, c'est que nous sachions exactement ce que le Seigneur veut que nous sachions pour vivre véritablement dans ce repos. Alors, on a vu dimanche matin, si vous étiez là, que vraiment Jésus n'y a pas été de même morte quand on sait ce que la loi enseignait par rapport à ceux qui touchaient des cochons, à ceux qui avaient des cochons. Il fallait que si quelqu'un touchait un cochon, il fallait absolument se laver, laver ses vêtements, enfin le fuir. Et Jésus, lui, nous parle de ce père qui prend son fils dans les bras, qui nous dévoile et qui nous enseigne comment Dieu nous aime. Une des choses qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous aime. On verra souvent la part de l'homme, mais il faut d'abord comprendre aussi la grande part de Dieu. Est-ce que vous savez que Dieu vous aime? Est-ce que vous le savez? Vous le savez tous? Mais ça, c'est archi important. Rappelez-vous, celui qui ne le croit pas le fait menteur. Alors, comprenez-vous que beaucoup de chrétiens sont toujours épuisés, fatigués, parce qu'ils ont fait Dieu menteur. Il va de soi que ça va être difficile d'avoir le repos si, quand vous parlez, vous faites Dieu menteur. Alors, on pourrait prendre, je vais le faire à l'introduction, l'opposition qu'il y a entre certains hommes dans la Bible. Quand on voit Enoch, parce que pour mon culte personnel, je lisais dans les Hébreux et je regardais le témoignage d'Enoch. Un Enoch qui avait reçu le témoignage qu'il était agréable à Dieu parce qu'il marchait avec Dieu. C'était un choix. La situation n'était pas meilleure qu'aujourd'hui. Hein. Laissez-moi vous dire que l'époque n'était pas belle. Et pourtant, il avait décidé de marcher avec Dieu. Ça plaisait beaucoup à Dieu, à tel point qu'il a été enlevé. Et quand on voit le frère aîné dans la parabole, comment Jésus le présente, c'est exactement l'inverse. Un homme qui ne marche pas avec Dieu, un homme qui n'a pas de communion avec Dieu, il n'a pas officiellement rétrogradé, il est resté dans la maison, lui, il n'était pas un rétrograde officiel, mais il n'avait en vérité aucune communion avec son père. Voyez comme quoi, bien sûr qu'on ne peut pas le cataloguer de fils prodigue, il n'a pas pris sa part d'héritage et il n'est pas parti la gaspiller. Il a fait quand même moins pire. Mais est-ce que vous pensez que ce n'était pas un vrai rétrograde quand même, hein? Quand on voit comment il se met en colère, laissez-moi vous dire que ce n'était pas quelqu'un qui vivait dans le repos. Alors, bien sûr que nous, on a tendance à comparer les gens. Est-ce que ce n'est pas vrai ça? Je te loue, est-ce que je ne suis pas comme le reste? Est-ce que ça vous est déjà arrivé de vous comparer à quelqu'un? Allez, soyons concrets. Est-ce que ça vous est déjà arrivé?
Ben oui,
vous voyez, ce n'est pas forcément méchant, mais ça peut être un piège en tous les cas, un piège dans lequel nous pouvons tomber, même si ça ne part pas d'une mauvaise intention. Cet homme, ce fils aîné, représente les chrétiens qui ne sont pas rétrogradés officiellement, qui sont restés dans l'Église, mais qui sont malheureux. Parce qu'on le voit bien, cet homme n'avait aucune communion avec son père. D'ailleurs, quand le fils revient, vous voyez, il va pas voir son père. Qu'est-ce qui se passe? Il va avoir un serviteur. On voit qu'un homme qui n'a pas officiellement, je le répète, rétrogradé, mais qui n'a pas de communion avec son père. Et ce n'est pas étonnant que beaucoup de chrétiens aujourd'hui se retrouvent dans cette catégorie-là. Ils sont malheureux et pourtant, ils n'ont pas rétrogradé. Parce que pour vous, c'est quoi un rétrograde? C'est quoi un rétrograde? J'aime pas beaucoup le mot rétrograde, mais enfin, c'est pour faire vite. C'est quoi pour vous un rétrograde? Parce qu'on le veuille ou non, on a des définitions. Est-ce que c'est quelqu'un qui quitte l'Église? Tiens, il a rétrogradé, on ne le voit plus. Mais laissez-moi vous dire qu'il y a des gens qui sont restés dans l'Église et qui étaient de véritables rétrogrades. Vous en avez la preuve là. Le Seigneur Jésus est très sérieux, bien sûr. Il est en train de parler à des gens qui avaient la meilleure religion à l'époque et qui avaient interprété la loi à leur façon et qui étaient en train de s'éloigner de Dieu à vitesse grand V. Voyez comme quoi il faut faire absolument attention. Alors c'est peut-être facile de juger ceux qui sont partis. Est-ce que c'est facile de juger ceux qui sont partis de l'Église? Il faut m'aider. Est-ce que c'est plus facile de juger quelqu'un qui vient plus à l'Église que quelqu'un qui vient mais qui est dans un mauvais état d'esprit? Vous voyez, tout ça, ce n'est pas pour polémiquer, c'est pour que vous compreniez que nous sommes quand même dans ce raisonnement parfois. Ça peut nous arriver d'être dans cet état d'esprit. C'est vrai qu'on peut dire qu'il n'avait quand même pas fait l'erreur de jugement de son frère, parce que le petit frère, même s'il revient après avec une véritable foi, il n'empêche qu'il était vraiment parti et qu'il avait fait une grosse erreur. Ce qu'on appelle dans la Bible une erreur de jugement. Pourquoi des gens rétrogrades? Je peux vous dire, ils font une erreur. C'est clair qu'ils ne connaissent pas non plus la bénédiction du Père. Parce que je crois vraiment que quand on a connu la bénédiction de Dieu, quand on l'a vraiment connue, on n'a pas envie de s'en éloigner. À quel autre irions-nous? Il me semble. Après, chacun est libre de faire des choix. Judas était un homme de Dieu. Il a fait des choix qui ne l'ont pas tellement béni. Vous êtes d'accord avec moi? Mais c'est un choix qu'il a fait. Pourtant, il a vu et il a entendu vraiment. Alexandre qui marchait avec Paul a vu des choses extraordinaires. Ça n'a pas empêché de l'abandonner. Alors, ce sont deux rétrogrades. Jésus en parle pour aider ces hommes religieux. Et ces choses n'ont pas été écrites pour faire de la philosophie. On peut en faire. Ces choses ont été écrites pour que nous comprenions vraiment ce que c'est que de marcher avec Dieu, ce qu'est le légalisme, ce qu'est vraiment la grâce. Parce que c'est une histoire qui nous fait prendre conscience que même si ces deux garçons sont avec le Père qui représente Dieu, c'est quand même extraordinaire. On sait qu'on a affaire à un Père qui représente Dieu, donc on sait qu'on a affaire à un Père extraordinaire. Et pourtant, voyez, les deux travaillaient d'une façon ou d'une autre, mais ils n'avaient pas de communion avec le Père. Ce qui nous prouve qu'on peut être dans une église et ne pas avoir de communion avec Dieu. D'être, oui, d'accord avec toutes les règles, même toute la doctrine biblique. Parce que la doctrine biblique, elle existe. Elle est saine et elle ne peut que contribuer à avoir un comportement sain. Mais on peut être dans la maison de Dieu et ne pas avoir de communion avec Dieu. C'est l'image exacte et terrible de ce qu'est la véritable religion. N'oublions jamais que le problème ne vient jamais de Dieu. Tristes sont les gens qui pensent que c'est Dieu qui se trompe. Dieu ne peut pas se tromper. Vous le croyez ça quand même? Au moins, voilà, Dieu est souverain, il sait exactement ce qu'il doit faire. Le fils aîné, il est toujours fidèle. Enfin, fidèle, vous pouvez le mettre entre guillemets quand même. Hein? Mais il ne comprend pas. Il ne comprend pas ce qui est en train de se passer. S'il avait communiqué, c'est sûr qu'il ne serait jamais arrivé à cet état d'esprit. Et si on s'arrête, dès qu'on s'arrête, il peut y avoir un déclic. Vous avez vu, le petit, il rentre en lui-même Il s'arrête, il dit, bon, ça ne peut pas aller, je me suis trompé. Bon, je vais revenir, je vais dire, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Vous voyez, quand on commence à dire que le péché, c'est d'abord contre Dieu, puis après contre les autres, c'est bon. On voit qu'il se cale comme il faut dans la parole. Mais il faut bien comprendre une chose. Parce qu'il n'y a pas de communication, on ne peut pas comprendre. Et vous pouvez écouter une prédication, bien sûr, en toute modestie et en toute humilité, vous savez que tout ce que je vais vous dire est biblique. Mais même si tout ce que je vais vous dire est biblique, il n'empêche que ça ne remplacera jamais une véritable communion qui amènera une profonde conviction. Parce que communion, vous l'interprétez comme vous voulez, lire la Bible, vous mettre à genoux, prier, faites-le comme vous voulez, méditez, vous mettez le mot que vous voulez dessus, moi ça m'est égal. Mais à quoi reconnaît-on quelqu'un qui véritablement a une communion avec Dieu? C'est qu'il est rempli de convictions qui sont bibliques, bien sûr. Ce n'est pas une question d'heures. Et toi, combien tu pries? Ah, 2 heures. C'est bien. Vous voyez, on est dans cette bêtise. Vous pouvez passer des heures à sonder les Écritures, comme le faisaient les pharisiens, et ne pas connaître le Seigneur. C'est une question de conviction. Vous pouvez, en quelques secondes, recevoir une parole de Dieu qui va vous bouleverser. Vous allez lire un psaume, un mot, 2 mots, et vous allez être béni par un psaume. Ça vous aura pris 10 secondes pour lire la parole de Dieu. Il y a beaucoup d'enseignements. Vous savez que ça fait des mois avant mon accident que je méditais sur l'importance de travailler ce sujet. Parce que c'est un sujet qui m'a interpellé. Je crois que Dieu l'a mis sur mon cœur. Je crois même que Dieu m'a arrêté pour que nous enseignions dans les églises ce qu'est véritablement la grâce de Dieu. Ce n'est pas parce qu'on est à côté de quelqu'un qui est béni que l'on va être happé par cette bénédiction. Vous en avez la preuve. C'est bien d'être à côté de quelqu'un qui est béni. Est-ce que vous êtes à côté de quelqu'un qui est béni? Regardez celui qui est à côté de vous. Est-ce qu'il est béni? Est-ce que c'est bien d'être avec quelqu'un qui est béni? Ben, c'est formidable. Oui ou non? Regardez encore de nouveau. Non, mais est-ce que c'est bien? Mais ce n'est pas pour ça qu'on va être béni. Il n'y a rien de plus beau que d'avoir des amis qui sont bénis, d'avoir des gens qui font du bien. Parce que le mot bénir, pour ceux qui découvrent l'Évangile, ça signifie faire du bien. C'est beau et c'est bien d'être avec des gens qui font du bien. Mais ce n'est pas pour cela que l'on va être béni vraiment. Vous savez, rappelez ce que Jésus a dit en pleurant à Jérusalem. Combien de fois j'ai voulu et vous n'avez pas voulu. Donc, Dieu veut vous bénir. Vous pouvez être là ce soir, nous pouvons être là ce soir et passer à côté de la bénédiction et faire ce que beaucoup font, examiner si ce qui est prêché est exact. Vous dire oui, ce qui dit c'est exact, ça tient debout, c'est biblique, mais ça ne vous sera d'aucun profit, mis à part pour votre autosatisfaction, votre intellect qui se réjouira. Comme l'a dit lorsqu'il présentait les chants, la vie de Dieu doit couler, les choses de Dieu doivent couler, elles doivent communiquer quelque chose. Le fils aîné, il est là, il n'a pas rétrogradé, mais en vérité, il est complètement étranger à l'amour de Dieu. Et c'est le quatrième point, en fin de compte, qu'on peut développer depuis qu'on a commencé. Êtes-vous étranger à l'amour de Dieu? Ou est-ce que l'amour de Dieu est pour vous une simple doctrine? Son attitude, en tous les cas, nous le prouve. C'est une question que je pose maintenant pour introduire la suite. Est-ce que ce garçon, le fils aîné, est véritablement un fils ou est-ce que c'est un esclave? C'est une question qu'on peut poser. Il est là dans la maison. Vu son comportement, c'est une question qu'on doit poser pour aller plus loin. Est-ce que c'est un fils ou est-ce que c'est un esclave? Quand son frère revient et qu'il l'apprend, vous avez vu au verset 28, il reste dehors et il se met en colère. Revenez avec moi au verset 28. C'est quand même révélateur, la colère. Il se met en colère. Et en plus, il ne veut pas rentrer. Vous voyez? Vous vous rendez compte? Il boude. Il ne veut pas rentrer parce qu'il n'est pas d'accord avec ce qui est en train de se passer. Il se met en colère. Qu'est-ce qui se passe pour mépriser autant son frère qui revient? S'il y avait un rétrograde ce soir, est-ce que vous seriez content ou pas? Bon, il revient. Comment il revient? Dans quel état il est? Enfin, en colère. La colère, vous savez, la Bible en parle souvent. Ça serait bien, même là, dans la foulée, de faire toute une étude sur la colère. Et voir toutes les fois où les gens se sont irrités quand Dieu leur a parlé. T'es un Caïn qui s'est irrité alors que Dieu est en train de dire « Mais est-ce que tu fais du bien? Est-ce que tu fais bien de t'irriter ?» Il s'est mis en colère. Il ne supportait pas l'idée d'entendre ce que Dieu avait à lui dire. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Donc, ça sous-entend que ça peut arriver, parce qu'il y a des choses pas faciles, est-ce que ça peut arriver de se mettre en colère? Ben oui. C'est clair, si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Donc, on sent que Dieu a une certaine condescendance par rapport à la colère. Mais, il faut faire attention. Parce que la colère peut nous amener à pécher. On le voit comment il va exploser, vous l'avez lu avec moi, et comment il répond à son père, « Ton fils !» Vous voyez, il ne dit pas « Mon frère !» Il dit « Mais ton fils qui a dépensé l'argent, etc. etc. » La colère révèle notre véritable nature. Vous êtes jamais surpris, non ? Non ? Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois, « Mais ça, je ne le dirai jamais !» C'est un truc que je ne dirai jamais. Et puis, je me suis rendu compte. Vous voyez ? Et il était auprès de ce père formidable. « Il y a tant d'années que je te sers, sans avoir transgressé tes ordres. » Comment il parle à son père ? Vous avez vu cette espèce de propos militaire, presque ? Il y a tant d'années que je te sers, sans avoir transgressé tes ordres. Vous comprenez bien que quand on est dans cet état d'esprit, ça va être très difficile d'avoir ce repos. Et moi, vous le savez, je suis profondément soucieux de mon repos personnel, mais surtout d'amener les chrétiens à vivre dans ce véritable repos. Bien sûr qu'il y a des règles dans une maison. Est-ce que c'est normal qu'il y ait des règles dans une ferme? Est-ce qu'il y a des règles dans une ferme? Est-ce que c'est normal que dans une maison, dans une église, dans une ferme, est-ce qu'il y a des règles? Est-ce que c'est normal qu'un père établisse des règles par rapport au travail qui va être fait dans une ferme? Est-ce que c'est normal? Oui, d'accord. Bon. Mais on peut ne pas comprendre les règles. On peut ne pas comprendre les ordres. Le Père, Dieu, par sa parole, nous donne tout un tas d'ordonnances. Destruction. Dans une ferme, un jour, il y a du travail dans une ferme. Qui a déjà travaillé dans une ferme ici? 1, 2, 3, 4, 5. Bon, on n'est pas nombreux. Dans une ferme, il y a énormément de travail. Un jour, il faut réparer les clôtures. L'hiver, parmi il y a du travail qui ne se fait pas l'été. Voyez, un autre, il faut changer les veaux de pâturage, etc. Il faut regarder. Enfin, dans une ferme, il y a énormément de travail. Un jour, c'est le fourrage à rentrer. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est. À l'époque, en tous les cas, que de rentrer du fourrage. C'est une drôle d'affaire. Donc, le père disait un jour, « Bon, ben, aujourd'hui, tiens, il faudrait réparer les clôtures. » Parce que nous, on envisage, mais il y a tout un enseignement derrière qu'il faut chercher à comprendre. Le fils, lui, considérait ce que le père demandait comme des ordres qu'il fallait accomplir. Il ne comprenait pas que derrière chaque ordre, il y avait une coopération, il y avait une bénédiction. N'oublions pas, c'était les fils, c'était pas des ouvriers, c'était des fils, des co-héritiers. Vous savez, on a chanté tout à l'heure, la couronne est offerte à ma foi. Toutes ces choses, elles sont dans la Bible. Un jour que je parlais sur les récompenses, quelqu'un m'a dit « Oh, les récompenses, ce n'est pas la peine que vous en parliez, monsieur Gault. » Mais je regrette. La Bible parle plusieurs fois des récompenses. Et si la Bible en parle, je ne vois pas qui on est, nous, pour ne pas en parler. S'il ne fallait pas en parler, il n'en serait pas fait mention dans la Bible. Parce que nous ne nous rendons pas compte que nous sommes co-héritiers avec Christ. Et que ce que nous faisons dans le royaume de Dieu, nous le faisons aussi pour nous. Nous ne nous en rendons pas compte, ça c'est peut-être pas plus mal, mais mes frères et sœurs, quand vous faites quelque chose pour l'Église, vous le faites pour l'Église, parce qu'il faut travailler pour l'Église, et quelque part pour le Seigneur, ou est-ce que vous réalisez que quand vous faites quelque chose, en même temps, vous le faites aussi pour vous? Est-ce que vous me suivez? Est-ce que c'est vrai ce que je vous dis? Est-ce que c'est vrai? Et oui, c'est vrai. Dieu veut que vous compreniez que nous sommes ouvriers avec Dieu, pas pour Dieu. Que nous sommes cohéritiers, que nous sommes ambassadeurs, que quand on fait quelque chose, il y aura une récompense. Alors bien sûr que Dieu nous garde de faire quelque chose pour la récompense. Mais quand même, même les toutes petites choses, celui qui donnera un verre d'eau froide à son, parce qu'il est mon serviteur, il en aura une récompense. Donc ça veut dire que les toutes petites choses que nous on zappe, pour ainsi dire, Dieu, lui, il les enregistre. Et si ce fils aîné avait commencé à dire, mais c'est vrai que les clôtures, c'est parce que réparer les clôtures pour pas que les loups y viennent, pour pas que les animaux sauvages y viennent, c'était aussi pour lui qu'il le faisait, parce que ça contribuait à enrichir son capital, son patrimoine. Vous voyez ce que je veux dire? Mais il ne le voyait pas, parce qu'il était plus comme un ouvrier esclave que comme un fils héritier. Et pourquoi beaucoup de chrétiens sont malheureux? Eh bien parce que, à la place d'être conscients que lorsqu'ils deviennent chrétiens, nous devenons des fils qui devraient se réjouir du travail à faire, de tout le travail. Dans une église, il y a beaucoup de travail à faire. C'est un peu comme dans une ferme, il y a beaucoup de travail. Mais dans quel état d'esprit je suis? En tous les cas, vous avez vérifié avec moi que même si on ne rétrograde pas officiellement, on peut être dans un très mauvais état d'esprit parce qu'on est vraiment, on n'a pas compris que quand on fait quelque chose, on le fait aussi pour soi. Vous croyez que Dieu le fait pour lui? Vous croyez que tout ce que Dieu fait, il le fait que pour sa gloire? Moi, je suis persuadé que ce que Dieu fait au travers de nous, c'est beaucoup pour nous. Et qu'on aura des surprises quand Jésus va revenir. En ce qui concerne les récompenses, même s'il en est parlé, je crois que 7 fois dans le Nouveau Testament, il n'empêche qu'on va avoir beaucoup de surprises. N'oubliez jamais que quand vous faites quelque chose pour Dieu, vous le faites aussi pour vous, quelque part. Et que si ce fils aîné avait compris que quand il fallait aller chercher peut-être le fourrage, c'était quand même aussi pour lui, parce que ça contribuait à sa bénédiction, à lui aussi, il aurait travaillé dans un autre état d'esprit. C'est important l'état d'esprit, c'est important. N'oublions pas que Jésus est en train de parler à des pharisiens qui veulent plaire à Dieu, qui font tout pour plaire à Dieu et qui devaient être furieux, mais furieux. J'ai compris en étudiant cette parabole lundi, hier, j'ai compris pourquoi ces pharisiens ont dit c'est par le prince des démons qu'ils chassent les démons. Pourquoi ils ont traité Jésus du diable? Parce qu'ils ne pouvaient pas croire que Jésus puisse comparer Dieu à quelqu'un qui prenne un gardien de cochon dans ses bras qui le serre. Ils ont dit, c'est pas possible. Pourquoi? Mais ils étaient vrais, ils étaient sincères, parce qu'ils n'ont pas compris ce qu'était l'amour de Dieu. Ils en étaient restés à des principes, à des formules, à des rites, et tout ça, ça les éloignait du Seigneur. Et ça, c'est dommage. Est-ce que vous croyez vraiment dans l'amour de Dieu? Que Dieu vous aime? Que Dieu vous aime? Mais que Dieu vraiment vous aime? Est-ce que vous croyez que Dieu vous aime? Est-ce que vous avez besoin d'amour? Allez, on va être très concret. Est-ce que vous aimez être aimé? Est-ce que vous aimez quand quelqu'un vous dit « je vous aime » Prune, est-ce que quelqu'un vous a... C'est pas Prune, si c'est Prune. Est-ce que quelqu'un vous a dit « je vous aime » dernièrement? Ah, qui sait? Est-ce qu'on a besoin d'amour? Très sérieusement, est-ce qu'on a besoin d'amour? Mais s'il n'y a pas d'amour, tout ce qu'on fait, par contre, ça sert à rien. Et dans la religion, tout peut être fait d'une rigueur totale sans amour. Et ce qui donne de la valeur à ce que nous pouvons être, c'est comment nous sommes aimés. Et bon, peut-être qu'on peut douter de l'amour de quelqu'un. Est-ce que ça peut arriver de douter de l'amour de quelqu'un? Ben oui. Mais ne doutez jamais que Dieu vous aime. Mais qu'il vous aime vraiment. C'est important. Je répète, Jésus est en train de parler à des gens qui sont en train de s'éloigner de Dieu alors qu'ils font tout pour lui plaire. Et c'est sûr qu'ils n'ont pas dû apprécier parce que certains devaient très bien comprendre ce que Jésus était en train de dire. Mais ce frère aîné n'a pas d'amour pour son père. Comment il lui parle? Il n'a pas d'amour pour son frère, vous voyez? Il n'a pas rétrogradé officiellement, mais laissez-moi vous dire que c'est un vrai, vrai rétrograde. Quelqu'un qui est très loin du Seigneur. Il ne réalisait pas. Ils ne réalisaient pas. Est-ce que nous réalisons pas le jour de notre conversion? Bon, le jour de notre conversion, c'est pas grave. Le jour de notre conversion, nous ne réalisons pas que nous sommes cohéritiers avec Dieu. Il nous a sauvés de l'enfer. C'est déjà le top niveau quand on se convertit. Mais nous ne réalisons pas que nous sommes des cohéritiers. Et il ne supporte pas l'idée. Il ne supporte pas l'idée que son père puisse faire la fête. La fête. Il fait la fête au frangin. Est-ce que c'est bien la fête? Est-ce que c'est bien la fête? Est-ce que c'était biblique de faire la fête? Tiens, la vraie fête, c'est écrit dans la Bible. Poursuivons la fête. Il y a une vraie fête qui est liée à la Pâque, mais pour nous, qui représente la grâce de voir dans l'Église des pécheurs venir et se convertir, c'est une véritable fête. Mais il ne comprend pas, c'est pas possible. Moi qui suis resté là fidèle, il n'a jamais rien fait. Est-ce qu'il aurait pu lui organiser des fêtes de temps en temps pour lui? Est-ce qu'il pouvait tenir donc aux fêtes? Ben oui. Mais bien sûr. D'ailleurs, tout ce que j'ai est à toi. C'est pour vous dire qu'il était vrai. Quand il faisait quelque chose, il le faisait pour lui. Il aurait dû comprendre qu'il le faisait pour lui. Il aurait travaillé dans un autre état d'esprit. Mais pour lui, ce n'est pas possible. Mon père est un père injuste. Comment il traite mon petit frère alors qu'il ne fait rien pour moi? Il représente vraiment ceux qui sont dans un mauvais état d'esprit. Et dans l'Église, il faut faire attention de ne jamais être dans un mauvais état d'esprit. C'est pour ça que des chrétiens sont tout le temps fatigués, épuisés, découragés, parce qu'ils tombent dans le piège du légalisme. Quand je vous disais dimanche et mardi que c'est un poison, c'est un véritable poison. Vous voyez, lui, il est là, il est comme les ouvriers, comme les esclaves. Il fait les choses parce qu'il faut les faire, voilà. Alors, est-ce que j'en fais assez? Est-ce que j'y plais? Est-ce que, voilà, j'ai réparé les clôtures? Tiens, hier et aujourd'hui, on a réparé les clôtures. Est-ce qu'il est content? Est-ce que ça lui plaît? Mais s'il n'y a pas de communion avec Dieu, s'il n'y a pas de communion, comment voulez-vous comprendre les choses? Regardez dans un foyer, s'il n'y a pas de communion. Est-ce que c'est important la communion dans un foyer? Eh oui, c'est important. Et si vous êtes marié, combien je vous encourage à développer une véritable communion avec votre conjoint? Plutôt que de se dire, ah, j'ai fait ça, est-ce que ça lui plaît? Mais le problème, s'il avait connu le Père, il aurait très bien compris que ce n'était pas par rapport aux abreuvoirs à remplir qu'il était aimé. Il était aimé par son Père parce que son Père était plein d'amour. Voilà ce que nous devrions comprendre. Il ne faut pas s'étonner que dans beaucoup d'églises, des chrétiens soient épuisés, fatigués, parce qu'ils n'ont pas de communion avec leur Père céleste. Et pourtant, il est à côté de nous. Il est toujours avec nous, le Seigneur, mais beaucoup ne le connaissent pas. Hélas, je sais de quoi je parle, et j'ai souvent vu des chrétiens qui, connaissant la Bible par cœur, entre guillemets, et qui ne connaissent pas Dieu, c'est quelque chose de terrible. Cette parabole, Jésus l'a adressée, c'est vrai que ça a fait un choc certainement aux pharisiens, un gros choc, croyez-moi, mais pour que nous sachions être convaincus que Dieu est plein d'amour. Et cette foi que le frère va redécouvrir, puisqu'il va vouloir revenir, c'est la preuve quand même que il ne doutait pas de l'amour du Père, puisqu'il avait envie de revenir. C'est extraordinaire quand on a toujours envie de revenir auprès de Dieu. Seigneur, je sais que tu... J'ai pas été toujours bien, mais je sais que je peux revenir. L'homme prépare ses mots, ce que vous voudrez. Mais une chose est sûre, à un moment donné, ce garçon va retrouver une foi. Et il faut croire, mes frères et sœurs, que tous ceux qui ont, entre guillemets, rétrogradé, Dieu les aidera à revenir. Et ne vous relâchez pas dans la prière, quel que soit l'état de déchéance dans lequel un croyant puisse tomber, comme c'était le cas. Parce que là, pour un juif, vous ne pouviez pas tomber plus bas. Vous retrouvez avec des cochons, laissez-moi vous dire, que vous ne pouviez pas, bibliquement, au niveau du Lévitique, au niveau du Deutéronome, vous ne pouvez pas tomber plus bas. Donc ce qui prouve que quel que soit l'état de déchéance dans lequel un chrétien puisse être tombé, eh bien Dieu peut lui redonner la grâce et la foi de revenir à lui, une foi vivante. Ne pensons jamais que nous gagnerons la faveur de Dieu par des actions, comme le faisaient les pharisiens. Les pharisiens en étaient là, voyez. Par contre, n'oublions jamais non plus, ça c'est une digression, mais n'oublions jamais que la foi sans les œuvres, elle est morte. Que la foi sans les œuvres, elle est inutile. Et c'est vrai que pendant des mois, je vais certainement insister sur le repos pour que les chrétiens comprennent vraiment que c'est ce que Dieu veut donner. Mais n'oublions jamais quand même que la foi sans les œuvres, elle est morte. Les œuvres ne sauvent pas, ça c'est clair. Mais voyez, quand on vit par les œuvres, on se lamente toujours, oui, j'ai pas fait les progrès que j'aurais dû faire. Est-ce qu'il y a des échecs dans votre vie? Est-ce qu'il y a des échecs? Mais oui, on a des échecs. Mais il ne faut pas se lamenter à cause de ces échecs. Est-ce qu'il y a des succès dans votre vie? Il y a des succès également aussi. Mais il ne faut pas s'enorgueillir à cause des succès. Vous voyez ce que je veux dire? Nous ne devons pas dépendre de nos échecs. Nous ne devons pas dépendre de nos succès. Bon, tant pis, hélas, pour les échecs. Merci Seigneur pour les succès. Mais ne commençons pas à penser que c'est par rapport à nos succès ou que c'est par rapport à nos échecs que nous sommes appréciés de Dieu. C'est ça que Jésus est en train d'enseigner dans cette parabole. Dieu veut nous enseigner que Dieu est amour. Et que si vous ne le croyez pas, vous le faites menteur, je le répète. Vous savez, Jésus a dit que nous reconnaîtrions les chrétiens, non pas leur doctrine, non pas leur nombre, non pas leur dénomination. Jésus a dit que vous reconnaîtrez les chrétiens à l'amour qu'ils auront les uns pour les autres. Voilà. Les gens de l'extérieur, ils n'ont pas besoin de voir, oh, c'est une grande église, c'est approuvé de Dieu, ça ne veut rien dire. Les gens de l'extérieur reconnaîtront les chrétiens, c'est Jésus qui le dit, Jean 13, 34 à 35, à la façon dont ils s'aiment. Et si nous voulons véritablement être de bons chrétiens, nous devons recevoir cet amour de Dieu, parce que ce n'est pas un amour qui vient avec notre caractère, notre mentalité, notre personnalité. Oui, moi, ça m'est plus facile d'aimer, parce que moi je suis optimiste. Tout ça, c'est humain. Il y a un amour qui vient de Dieu, que l'on reçoit de Dieu. Ça peut venir par un cantique. Moi, en chantant, ça m'a fait beaucoup de bien. Je ne sais pas vous, ça vous a fait du bien de chanter? Voilà, on sent cet amour de Dieu qui vient, immense grâce. Tous ces cantiques nous noyer dans la grâce, voilà. Et là, Dieu peut vous bénir au travers d'un cantique. Dieu peut vous bénir tout à l'heure, chez vous, en rentrant, en lisant un psaume, au travers de la prédication, au travers de moments de prière. Ça vient de Dieu. La religion, elle, moi, je le sais, puisque je suis tombé dans le piège. Alors, c'est très bien. Enfin, très bien, pas que j'y sois tombé, mais que comme ça je peux bien l'expliquer. La religion a pour effet de faire naître de l'orgueil. Voilà. Moi, j'ai jamais rétrogradé. Lui, il a rétrogradé. Donc, je suis meilleur que lui, c'est évident. Et qu'on le veuille... C'est une image, hein. Vous avez vu, c'est ça la religion. C'est ce que ça nous autorise à nous forcer, à nous comparer aux gens. Vous comprenez bien pourquoi beaucoup de chrétiens n'ont pas le repos quand ils vivent dans cet état d'esprit. Ce que Jésus veut que nous comprenions, au travers de ce qu'il veut faire comprendre aux pharisiens, c'est que la religion, ça nous éloigne de Dieu. Par contre, lorsque quelqu'un se repent et se convertit vraiment, il reçoit l'amour de Dieu. Vous vous rappelez certainement le jour de votre conversion. Vous rappelez comment l'amour de Dieu vous a inondé. Christ était la source de votre vie, c'est pour ça que Jérémie nous l'a bien rappelé dans ses chants, c'est quelque chose que Jésus nous a donné. Il est notre vie. Et ce n'est pas les règles que nous nous sommes imposées. Et pourtant, ça va vite. Ça va vite. Parce que la religion, quand même, elle change certaines choses. Oui ou non? Est-ce que par la religion, on peut changer de moralité? Oui, on peut changer. On peut, dans une église, on peut enseigner la moralisation. Il n'y a pas besoin de la grâce de Dieu pour ça, de moraliser les gens, on peut. Donc la religion, elle peut changer certaines choses, mais elle ne peut pas changer le cœur. Il n'y a que la grâce de Dieu qui peut changer le cœur. Et ça, il faut le comprendre. La religion peut changer la conduite des gens, mais elle ne peut pas changer le cœur. Il n'y a que la grâce de Dieu. C'est pour ça qu'il faut dépendre de la grâce de Dieu. On le chante à tour de bras, mais je pense qu'il faut absolument le réaliser. La chose peut-être la plus merveilleuse qui puisse nous arriver, c'est que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux. Je le crois. Que le Saint-Esprit nous ouvre les yeux pour voir l'amour inconditionnel de Dieu à la croix. Je crois que c'est la chose la plus formidable qui puisse arriver à un homme sur la terre, que grâce au calvaire, nous voyons comment Dieu nous aime. Et là, ça produit une relation bénie, ça produit une véritable vie où on n'a pas besoin de toutes ces règles, même si ces règles existent. Parce que quand on se convertit, qu'on le veuille ou non, il y a des choses qui changent, oui ou non. Notre présence ici ce soir nous prouve que de devenir chrétien, ça a changé les choses, puisqu'avant nous n'allions pas des réunions par exemple, oui ou non. Donc, quand on se convertit, il y a plein de choses qu'on ajoute, il y a plein de choses qu'on enlève, etc. Ça serait trop long à expliquer, mais vous avez bien compris ce que je voulais dire. Il y a des choses qui changent, il y a des choses qu'on enlève, il y a des choses qu'on ajoute. Il y a des comportements que nous modifions, etc., etc. Il y a des choses que nous ne faisons pas, il y a des choses que nous ne regardons pas. Mais tout ça, c'est la conséquence. Ça ne devient pas des règles en soi. Quand on se convertit, on ne devient pas pentecôtiste ou baptiste. Quand on se convertit, on devient vraiment un enfant de Dieu. Et toutes les bénédictions de Dieu sont pour nous. Tout ce que j'ai est à toi. Vous le croyez ? Et voyez, mais lui ne le savait pas. Lui bossait pour son père, un véritable esclave qui pouvait se comparer aux ouvriers. D'ailleurs, regardez le fils aîné, quand il veut revenir, il est dans le même état d'esprit. Traite-moi comme un de tes ouvriers. Vous voyez, cette manie que l'on a de vouloir être que des ouvriers ou que des esclaves. Non, on est des collaborateurs avec Dieu, des co-ouvriers. C'est important, mes frères et sœurs. Parce que dans une église, la mentalité d'esclave ne doit pas exister. Dans une église, c'est la mentalité de fils qui doit exister. Ce n'est pas plus compliqué que ça. Vous avez vu comment on l'a lu tout à l'heure. Gardez-vous avec soin du levain des pharisiens. N'oubliez pas que Jésus parlait à des disciples. Pas des gens qu'il voyait tous les ans, des gens qu'il voyait tous les jours. Des gens avec qui il était tous les jours. Jésus leur dit, mais gardez-vous avec soin, c'est un avertissement, une recommandation. Ce sont des choses sur lesquelles il faut faire attention. Est-ce que ça, pourquoi je le fais ? Est-ce que ça, c'est bon ? Pourquoi je fais ceci ? Pourquoi moi, Gérard Gaud, je prêche ? Est-ce que je prêche pour que Dieu m'aime ? Ah oui, est-ce que Dieu m'aime davantage parce que je prêche ? On me l'a dit, j'ai reçu des mails, moi, pendant mon AVC. Ah, monsieur Gaud, comme Dieu doit vous aimer, vous qui prêchez la parole de Dieu. Vous voyez ? Alors si j'arrête de prêcher, Dieu m'aime moins. Et voilà, c'est pour ça que je continue à prêcher. Mais voyez un petit peu, c'est ça là, c'est ça la religion. C'est ça l'esprit du pharisien. Alors ça part certainement d'une très bonne intention, mais je peux vous dire que c'est pas bon du tout. Et c'est pour ça que beaucoup de chrétiens ne sont pas dans le repos. Jésus leur fit cette recommandation. Une recommandation, vous regarderez dans le dictionnaire, c'est vraiment un avertissement. L'Église de Jésus-Christ doit vivre dans la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. C'est tout. Vous devez faire les choses par grâce, comme le jour où vous vous êtes converti. Alors, le mieux à faire, après avoir entendu cette exhortation, c'est peut-être de lire le livre des Galates et de voir comment Paul a dû s'acharner, s'inquiéter, vraiment se mettre même contre Pierre. Regardez, après cette étude, lisez l'épître de Paul aux Galates. Et vous verrez, vous vous rappelez ce qu'on a lu tout à l'heure ? On le relit, s'il vous plaît ? On va le relire. Parce que je crois que c'est bien par rapport à ce que vous avez entendu. Il y avait dans l'église des Galates, qui avait reçu la grâce de Dieu, des docteurs étaient venus, certainement des pharisiens qui s'étaient convertis, et qui avaient réintroduit la loi avec la grâce. C'est bien la grâce, mais il faut des règles. Il faut des règles, il faut des formules. Alors tout ça, ça tient debout. Mais je peux vous dire que c'est du poison. Même si... Je l'ai dit, on a besoin de certaines règles. Regardez avec moi Galates 2, verset 21. Galates 2, verset 21. Regardez au verset 11 d'abord. Ça avait chauffé, je vous assure, ça chauffait, c'est écrit quand même. Pour que Dieu veuille que l'on sache que ça crée un conflit entre Paul et Pierre, c'est Dieu qui est discret dans les conflits, vous voyez ? Regardez un petit peu. Mais lorsque Céphas, dont Pierre, vint à Antioche, je lui résistais en face, parce qu'il était répréhensible. Et il avait accepté cette idée. Il n'avait pas osé prendre position, mais c'est grave, voyez. Mais il vous faudrait tout lire. Voyez, le verset 21 qu'on a lu tout à l'heure, « Je ne rejette pas la grâce de Dieu, car si la justice s'obtient par la loi, Christ est donc mort en vain. » Et où c'est que l'on voit ? Oui, au verset 13. Vous voyez la fin du verset 13. Barnabas même fut entraîné par leur hypocrisie. Vous voyez, ça va loin. C'était grave. Quand on veut ajouter à la grâce de Dieu des lois, des rites, des formules, des principes, ça va loin. Moi, je vous le dis, j'en ai honte. Je me suis fait piéger là-dessus. Je comprends pourquoi, à certains moments donnés, j'ai perdu la paix. C'est facile à comprendre, croyez-moi. Avec cette étude, je commence à réaliser certaines choses. Si quelqu'un cherche à être accepté par Dieu, par sa façon de vivre, eh bien, c'est ce que Paul est en train de dire. Il déclare par son attitude que Christ n'est pas nécessaire. Si je plais à Dieu par mes actes, je plais à Dieu par ce que je fais. À quoi ça sert la grâce de Dieu? Et on retombe là-dedans. Mais lisez l'Épître aux Galates. Ça fait vraiment pitié. Vous l'avez lu avec moi, Galates 5. Vous êtes séparés de Christ. Vous tous qui cherchez la justification par la loi. Vous êtes déchus de la grâce. Et au chapitre 1er, regardez, il faudrait tout lire. Mais si vous ne savez pas quoi lire ces jours à venir, méditez l'Épître aux Galates. Mais vraiment, après cette étude, vous allez bien comprendre l'Épître aux Galates. Mais vous vous rendez compte? Il dit, maudit soit celui qui enseigne cela. Regardez, verset 8. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème, qu'il soit maudit. Mais d'une sévérité, je ne sais pas si vous faites attention. Mais après cette étude, lisez l'Épître aux Galates et regardez la sévérité que Paul utilise pour les chrétiens de Galates, pour qui il était prêt à donner sa vie. Et lisez toute cette épître et dit, mais maudit soit l'homme qui enseigne cela. Et on a vite fait dans les églises d'enseigner. Et bien voilà. Mais par contre, comme je l'ai dit, la foi sans les œuvres, elle est morte. Alors il faut quand même savoir ce qu'il y a à faire. Mais quand on fait les choses avec la vie de Christ, demain, si vous êtes rempli du Saint-Esprit, est-ce que ça sera difficile de témoigner? Mais non, vous allez le faire naturellement. Ça va être le résultat de cette vie qui coule en vous. Mais quand on commence à penser que je plais à Dieu parce que je fais ceci ou parce que je fais cela, c'est comme ça que je vais devenir un esclave. C'est comme ça que les fils deviennent des esclaves. Croyez-moi, c'est ce levain des pharisiens, ce poison qui fait que tant de chrétiens aujourd'hui sont fatigués, découragés. Oui, rappelons-nous, je veux terminer avec ça, mais rappelons-nous la joie que nous avons eue quand nous nous sommes convertis. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, si vous vous rappelez comment la joie elle est venue dans votre cœur, d'avoir cette grâce de Dieu. Et il n'a pas fallu attendre 3-4 jours pour qu'on tombe sur quelqu'un qui vous dise « Oui, d'accord. » Mais tu sais, il est écrit, il faut prier sans cesse. Oui ou non? Quand vous vous êtes convertis, vous avez lu la Bible. Quand vous avez lu la Bible, est-ce que c'était bien? C'est merveilleux, oui ou non? C'est merveilleux. Mais on a vite fait de tomber sur quelqu'un qui va vous montrer que pour servir Dieu, pour plaire à Dieu, il faut faire les choses. On en parlait tout à l'heure dans le bureau avec les pasteurs. Quand il est dit, par exemple, prier sans cesse, comment vous l'interprétez-vous? Il faut prier sans cesse. Maintenant que tu es chrétien, il te faut prier sans cesse. Ou est-ce que ça ne serait pas plutôt une grâce de plus? Mais je suis chrétien, je peux n'importe quand m'approcher de Dieu, je peux, quand je veux, m'approcher du Seigneur. Voyez, vous avez vu la différence? Et on a vite fait de présenter la grâce de Dieu comme des lois et des formules. Moi, vous savez, vous me connaissez, ça fait bientôt 15 ans que je suis au milieu de vous, je me suis fait piéger. Parce qu'on veut tellement voir le réveil que les règles, ça rassure. Mais c'est un piège. Et nos règles et nos conduites vont faire de nous des esclaves. Et il ne faut pas ça. Ce qu'il faut, c'est que la grâce de Dieu fasse de nous des fils. Ce que je fais, je le fais de tout mon cœur. Je le fais par grâce. Je n'ai pas pu le faire, bon, ce n'est pas bien. Mais de toute façon, ce n'est pas pour ça que Dieu va m'aimer plus ou moins. Je vis dans la grâce de Dieu. Alléluia. Mes frères et sœurs, veillons sur ces choses. Vous savez, Jésus n'a pas donné cette histoire pour mépriser ces pharisiens qui, eux, n'auraient jamais mangé avec un pécheur. Est-ce qu'on peut manger avec un pécheur? Est-ce que Dieu peut vous conduire demain à manger qu'avec des pécheurs? Mais bien sûr. Le problème vient si vous vous plaisez avec les pécheurs, si vous vous plaisez qu'avec les pécheurs, ou si vous aimez le péché des pécheurs. Là, ça commence à devenir inquiétant. Je me souviens quand je me suis converti, vous savez que je travaillais en bois de nuit. Et il y avait des chrétiens, il te faut sortir de suite, il te faut arrêter de suite. Est-ce que ça tenait debout? Non mais c'est un vrai sujet. Il y a des chrétiens, oui, c'est pas normal que tu travailles en bois de nuit. Tu te rends compte, je me suis converti mi-septembre, et je suis resté jusqu'à fin décembre. Et je me souviens, j'ai posé la question au Seigneur, parce que 7 personnes se sont converties entre-temps. C'est bien quand même 7. Et le mi-décembre, je me rappelle, j'avais ouvert la Bible, je dis, Seigneur, tu vois, qu'est-ce qu'il faut que je fasse? Et en lisant le psaume 34, je me rappelle très bien, j'ai été arrêté par ce texte où il est dit, éloigne-toi du mal. Mais je savais que c'était le moment de Dieu où je devais arrêter ce travail. Et je l'ai fait, j'ai fait un acte de foi, 15 jours après, je savais que j'avais plus de travail, c'était dans le 31 janvier, le 2 janvier, je trouvais du travail. Je vous dis ça pourquoi? Parce que je crois que, voyez, ça partait d'une bonne intention, il ne te faut pas travailler en boîte de nuit. Mais si les gens avaient compris que je m'étais vraiment converti, ils devaient bien se douter que je n'allais pas y rester en boîte de nuit. Est-ce qu'un vrai chrétien peut rester en boîte de nuit? Mais bien sûr que non. Donc, c'est ça la confiance. Mais voyez, ils auraient pu faire et empêcher que des personnes découvrent la grâce de Dieu. Parce que je crois que Dieu est souverain, je ne me plaisais plus en boîte de nuit, mais il y avait des gens que Dieu aimait, et il y a des gens que Dieu voulait sauver. Et il l'a fait pendant ces 3 mois, ou 3 mois et demi, où j'ai continué eh bien, à exercer mon travail de barman, tout en étant chrétien. Et je peux vous dire que j'ai distribué des dizaines et des dizaines de bibles. On ne distribuait pas que des cocktails, à partir de ce moment, on en distribuait d'autres, qui étaient bons. Vous voyez, pourquoi je dis ça? Parce qu'on n'a pas le droit de devenir des pharisiens. Et de dire, il te faut faire comme ci, il te faut faire comme ça. Voyez pourquoi il y a tant de gens qui n'ont pas envie d'aller dans les églises. Parce qu'ils ont vu, au travers de nous, je parle d'une manière générale, mais si on vit dans la grâce, les gens verront la grâce. Ils se convertissent, ils ne se convertissent pas. Ça, c'est notre problème. Mais que Dieu nous accorde cette bénédiction, que quand les gens nous voient, ils ne voient pas des pharisiens qui connaissent la Bible à fond, mais qui apportent la mort à la place d'apporter la vie. Et tout ça, je crois qu'il faut peut-être méditer les Galates, reméditer ces choses. Vous savez que j'ai à cœur même d'en faire un livre. Je ne sais pas si c'est la volonté de Dieu, parce qu'on peut lire et relire ces choses que j'enseigne, que j'apporte. En tous les cas, prions pour cela. Mes frères et sœurs, soyons des fils et soyons heureux d'être des fils et des filles. Est-ce que vous êtes heureux d'être des fils et des filles? Alléluia. On ferme les yeux quelques instants. Ouais. C'est une grâce d'être un fils. Vous savez, il n'y a pas de plus grande bénédiction que de pouvoir dire à Dieu, tu es mon Père. Vous pouvez le calculer comme vous voudrez. Il n'y a pas de plus grande bénédiction que de dire, le Dieu qui a tout créé, je peux l'appeler mon Père. Il n'y a pas de plus grande bénédiction. Je ne sais pas si vous réalisez, oui, tout ce que Dieu a est à vous. Et tout ce que vous faites, ça vous reviendra. Ne le faites jamais pour ça, mais je suis sûr que l'Église sera bénie si on entre dans cette vie de l'Esprit. C'est ça la vie de l'Esprit. Parce que la vie de l'Esprit, ça ne peut qu'être qu'une vie de grâce. Et si c'est des formules, ce n'est pas la vie de l'Esprit, c'est la vie des pharisiens. Alors, demandons au Seigneur sa grâce. Il le fera. Il le fera. Je ne sais pas où vous en êtes. Moi, j'essaie de savoir où j'en suis pour faire des progrès dans la grâce et dans le repos. Mais je voudrais qu'on puisse terminer en priant. Tout simplement, vous êtes d'accord, frères et sœurs, qu'on lui demande sa faveur. Il va nous aider, il va nous aider. Seigneur Jésus, tu as laissé ta parole. Non seulement tu as tout accompli au calvaire, tu as versé ton sang, tu nous as montré comment tu nous aimais, tu nous as prouvé ton amour, et en plus, tu as trouvé bon de nous laisser ta parole. Pour qu'encore ce soir, nous soyons au bénéfice de cette grâce et que nous ne nous fassions pas piéger par le levain des pharisiens. Nous te demandons pardon, Seigneur, de ne pas avoir veillé attentivement, avec soin, à ce levain qui a inoculé nos vies. Seigneur, nous te demandons pardon, mais nous réclamons ton aide, afin que dans ces temps difficiles, nous les chrétiens, nous puissions être des sources de bénédiction. Vraiment, Seigneur, auprès de tous ceux dans notre famille, pardonne-nous pour toutes les fois où par nos forces, nos règles et nos formules, nous avons essayé de communiquer la grâce. Pardonne-nous, Seigneur. Pardonne-nous pour toutes les fois où, comme le frère aîné, nous nous sommes presque mis en colère pour que des gens puissent lire la Bible. Mon Dieu, pardonne-nous. Pardonne-nous. Nous croyons en ta grâce. Nous croyons en ton amour. Oui, nous croyons, Seigneur Jésus, que tu es bon. Alors, bénis cet auditoire et donne-nous la grâce de comprendre, oui, de savoir nous arrêter et de comprendre ton amour merveilleux. Merci Seigneur Jésus. Amen.